Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons, alors comme chaque jeudi, oui, mais là il y a eu plusieurs jeudis où il n'y avait pas Page à Page à cause des jours fériés, bien sûr. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui, donc jusqu'à 10h. Alors mon invité d'aujourd'hui, c'est Hamid Berrioni. Bonjour Hamid.
Bonjour Claire.
Qui vient nous parler de son livre, de son conte, L'Arbre du désert, qui est édité aux éditions du Griffon Bleu à Haute-Rive, avec le responsable de la maison d'édition, Didier Debord, que nous aurons tout à l'heure au téléphone. Donc on pourra en parler tous les trois ensemble. Mais dans l'immédiat, comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Alors je vous rappelle que ce soir, à 18h, à la librairie Priva, qui se situe toujours 14 rue des Arts à Toulouse, une rencontre avec Alain Monnier, que vous connaissez puisqu'il est déjà venu plusieurs fois à Page à Page. Alors son dernier livre s'intitule « Rives altes, un camp en France ». Et oui, Alain Monnier est né à Narbonne et il a eu envie d'écrire un livre sur le camp de Rives altes, hein, qui a marqué l'histoire. Donc c'est un livre qui est publié aux éditions La Louve. Donc c'est ce soir à la librairie Priva à 18h. Et puis je continue avec bien justement une annonce pour les éditions du Griffon Bleu, avec notre ami donc Didier Debord, qui sera avec nous tout à l'heure, qui sera présent le samedi, donc ce samedi, samedi 24 mai, à Cugnot, de 9h30 à 13h, au marché de Cugnot, avec la librairie itinérante qui s'appelle Éclat de lire. Et ce sont des contes pour enfants qui seront animés par Didier Debord et sa verve que l'on connaît bien, n'est-ce pas, Hamid? Donc sur le marché de Cugnot, alors c'est pour les enfants de 4 ans à 15 ans, donc ça laisse une fourchette assez large.
C'est
donc
tout c'est... Il n'y a pas plus.
Non, si, puis pour nous aussi, pour les adultes, non, bien sûr, pour les adultes aussi. Donc n'hésitez pas, si samedi vous passez par Cugnot, en allant faire votre marché, vous trouverez Didier Debord qui vous contera quelques petites histoires, comme il en a le secret. Et puis je continue les infos avec samedi à la médiathèque de la Bège, qui se situe rue de l'OTAN, à 10h30 précise pour les matinaux, hein, mettez le réveil. Vous pourrez retrouver François Vermel, qui était là il y a quelques semaines, le 24 avril exactement, pour son livre Godefroy, le roi des petits pois, édité également au Griffon Bleu. Hein, voilà.
Donc, maison, hein.
Ah oui, hein. Donc François Vermel qui sera donc à la médiathèque de la Bège pour conter. Il vous racontera plein d'histoires dont lui aussi il a le secret. Donc François Vermel, la médiathèque de la Bège, rue de l'OTAN, samedi 31 mai à 10h30. Et puis je termine ces infos avec le dimanche 8 juin, c'est un peu plus loin mais je vous l'annonce quand même, je vous le réannoncerai, à 16h dans le cadre du Rio Loco, hein, qui aura débuté à la médiathèque José Cabanis pour les enfants à partir de 5 ans au grand auditorium au Red Jardin. Eh bien, on retrouvera François Vermel, encore lui.
Encore
oui, accompagné d'un clarinettiste qui s'appelle Roland Martinez. Et pendant une heure, ils nous conteront et il y aura de la musique des tziganes Calderache. Voilà.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, j'ai terminé la page des infos, effectivement. Donc je me tourne vers Hamid, alors on va pour ceux qui n'auraient pas encore eu le plaisir de te connaître, on va rappeler un peu qui tu es, Hamid.
Qui suis-je?
C'est la bonne question,
moi,
qui suis-je? Alors bon, tu es marocain par tes deux parents.
Et oui.
Voilà, donc tu es bilingue en plus, voilà. Tu vis à Castres actuellement, depuis
oui,
pas mal d'années.
Oui, je suis tombée là-bas.
Voilà,
oui.
Tu es arrivée, mais bon, tu as vécu à Paris, tu as vécu à Saint-Étienne, voilà. Et puis tu as fait du mime, tu as fait de la comédie, enfin tu es comédien, tu es conteur aussi, mais bon, avec tout ce qui va avec le conte, c'est-à-dire le spectacle, tu animes les histoires en fait, tu les fais vivre.
J'essaye, comme beaucoup d'artistes.
Tu réussis très bien, Hamid.
J'essaye que mon corps et mon esprit soient vivants.
Et tu écris donc justement aussi également, puisque l'arbre du désert, c'est une création entièrement de
moi, en lien, en relation avec mes origines, le Maroc, et puis avec mes parents. Donc on lira tout à l'heure un petit extrait qui parlera de cette origine-là, puisqu'il faut toujours parler des choses.
Des racines des choses.
Comme dirait le poète, de l'origine.
Eh oui,
c'est très important. Mmh. Souvent, on dit des choses et on ne dit jamais d'où elles viennent.
C'est vrai. Mais donc, cette histoire, l'arbre du désert, ce conte, t'a été inspirée par une histoire que t'a racontée ta maman quand tu étais enfant.
Oui.
En partie.
En partie, oui. Quand j'étais un peu plus grand, on se racontait un peu les choses et ma mère et mon père m'ont raconté, mais plus par la bouche de ma mère, puisque mon père était déjà en Corse, et nous on était au Maroc, donc l'immigration a commencé déjà dans les années 60, et elle me racontait qu'ils allaient ramasser du bois, mais ça vous verrez ça tout à l'heure, je ne vais pas tout dévoiler.
Non, mais bon, on peut dire quand même que bon voilà, c'est un conte sur l'arbre en tant que l'arbre vivant, l'arbre habité, l'arbre sagesse, enfin ou sage, je ne sais pas, c'est un peu dans cet ordre d'idées.
Absolument, c'est symbolique, c'est une...
C'est un très beau conte, voilà, symbolique, philosophique. Hein,
aussi, initiatique.
Initiatique.
C'est un conte initiatique. Qui dit arbre dit racine.
Tout à fait.
Et soit je n'ai jamais vu un arbre vivre sans racine, à moins que la science me dise il y a des arbres qui n'ont pas de racines.
Oui, mais enfin c'est des faux arbres à ce moment-là, ils sont en plastique. Hein. C'est plus.
Ah voilà.
si ça existe, mais bon voilà, c'est pas les arbres les vrais.
Voilà, je pense que l'être humain a besoin de racines et même s'il est ailleurs, il sait que ses racines sont toujours plantées dans cette terre. Et qui, pour moi, est une terre universelle, puisqu'elle appartient à tous.
Tout à fait. Donc, ce livre, il est donc écrit par toi, et il est illustré par Birgit Killian.
Oui.
Voilà. Donc, aux éditions du Griffon Bleu, hein, de Didier Debord. Et tu l'as dédié à ton fils Saël, en mettant à mon fils Saël, Lumière de mes yeux. J'ai trouvé ça très, très joli.
Oui, mais je n'ai rien inventé là. Je crois que j'ai repris ce que me disait ma mère. Je crois qu'à un moment...
Tu étais la lumière des yeux de ta maman.
Voilà, je crois qu'à un moment, on voit plus clair. Donc, on se dit, ah tiens, je sais d'où peut venir aussi une certaine lumière pour que je puisse mieux voir un peu mon chemin.
La lumière du cœur, la lumière de l'amour.
Voilà, et je crois que dans ce studio aussi, il y a une lumière. Et voilà, je crois qu'il n'y a que des lumières qui peuvent nous faire cheminer. Et tu parlais de Birgit Killian. C'est aussi une rencontre à travers une lumière, c'est-à-dire par ses illustrations.
C'est un très très belle, très belles illustrations. Hein. Ouais. Le texte, bon, est magnifique. Il est très bien illustré. Je trouve que les illustrations collent parfaitement au texte.
C'est un beau livre, je
oui,
crois.
C'est un très beau livre.
Le Griffon Bleu a fait bon choix. Oui.
Et donc, on rappelle que ce conte, bon, c'est pour les grands-enfants et les adultes, bien sûr. C'est à partir de quel âge
on peut dire à partir de 10 ans.
Voilà, oui, quand même, oui, voilà.
Oui,
ouais, parce que c'est un conte, comme tu l'as dit, initiatique, avec, bon, quand même, un message. Bon, il faut pouvoir le cerner.
Si ce n'est pas tout de suite, un peu plus tard. Mmh. Mais déjà, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et le premier serait à partir de 9 ans. Moi, j'ai vu des enfants le lire à 7 ans avec leurs parents. Je crois qu'il faut accompagner.
Ah oui, il faut accompagner.
C'est un livre qu'il faut accompagner l'enfant parce qu'il est profond. Il est parfois, on peut croire que c'est d'une cruauté alors qu'il n'est pas cruel.
Non.
C'est complètement la vie, la mort.
Et oui, tout à fait. Et puis ça peut permettre aussi d'échanger entre parents et enfants, de discuter là-dessus aussi.
Il y a de très bonnes questions. Pourquoi maman, pourquoi papa, ça, voilà.
Donc, je voulais dire aussi que ce conte, il a d'abord, avant d'être publié aux éditions du Griffon Bleu, il a d'abord été joué au théâtre. En fait, c'est un conte qui a été écrit il y a longtemps, hein, en 1990, je crois.
C'est ça, en 1990, j'ai écrit ce conte suite à la parole de ma mère, qui m'a donné envie d'écrire pour le théâtre. J'étais jeune comédien sur Paris des années 80, voilà, il y avait plein de choses, et j'ai voulu écrire pour le théâtre parce que je n'avais pas de rôle pour moi, parce qu'il y avait toujours ce côté... maghrébien, pour ne pas dire maghrébin, voilà, le cinéma se cherchait, peut-être qu'il ne vendait pas trop au monde arabe, la littérature, il y avait les grands, et puis moi je n'étais rien, et j'avais envie d'écrire pour qu'on vibre un peu au théâtre et qu'on raconte des histoires. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire. Donc, je l'ai monté au théâtre. Je l'avais joué à l'Institut du Monde Arabe.
Voilà, du Monde Arabe.
Voilà, puis...
Et après, il a été... pour nous, à Toulouse, il a été joué... Enfin, pas en pièce de théâtre, mais il a été conté en tant que conte animé.
Absolument.
À la médiathèque José Cabanis. Je crois que c'était en février 2006.
Déjà, oui.
En février 2006.
Avec Pierre Blanchu, musicien.
Pour la musique.
Et on l'a joué dans le noir pour les
voyants
et les non-voyants.
C'était une commande de Cabanis. Ouais. C'était donc tous les personnes avaient les yeux bandés pour être tous au même niveau, pour ressentir justement ce conte. Et voilà, donc il a été joué à Toulouse en tant que conte.
C'était une première pour José Cabanis à la médiathèque avec toute l'équipe très sympathique que je retrouve bientôt d'ailleurs le 21 juin pour une lecture, non pas dans le noir, mais une lecture...
De l'Arbre du désert ?
Non, d'un autre texte, d'un conte, les contes du Caire.
D'accord, ouais. Parce qu'on t'avait reçu l'année dernière, je crois, c'était pour Ali Baba. Qui était publié aussi au Griffon.
Oui, on a joué à Alibaba, on le joue à Haute Rive prochainement, mais je vous donnerai peut-être un peu mon calendrier.
Ah oui, avec plaisir, voilà. Avec plaisir. Et je voulais dire aussi que l'enregistrement, il y a un enregistrement quoi, de ce conte à la bibliothèque François Mitterrand à Paris.
Et oui, ben voilà.
C'est quand même, vas-y, faut le signaler. On peut le trouver. Et je voulais aussi rajouter qu'il a obtenu le premier prix radiophonique international par Radio France Internationale en justement 1990 et sur concours.
Absolument, il y avait un concours
quand même pas...
en 90 du théâtre interafricain, la langue francophone, et j'ai présenté la première fois. Et ça n'a pas été retenu. La deuxième fois, j'ai rajouté des didascalies et j'ai obtenu le premier prix. Donc ma mère a fait des you-you.
Ah, voilà.
Quand je lui ai dit que c'est par elle.
Bah oui, elle était fière que ce conte soit...
Bah visible, lu, puis entendu.
Reconnu.
Je crois que c'est très important. Je crois que n'importe quel être humain a besoin à un moment d'être valorisé. N'importe
qui.
Et il peut percer cette
Là aussi, ça permet de grandir.
C'est ça. Voilà.
On parlait
de ça tout
à l'heure hors antenne. Et il a été diffusé donc dans 25 pays d'Afrique et d'Océanie.
Absolument, je devrais être au musée de Quai-Branly, absolument.
Oui. Et on a notre invité au téléphone. Donc on va attendre un petit peu. Didier n'est pas derrière son téléphone, donc on va attendre un petit peu. On va continuer de discuter, peut-être éventuellement faire la petite lecture maintenant pour retrouver Didier après, si on peut le retrouver d'ailleurs. On espère. Qu'en penses-tu, Amise? On lit peut-être d'abord peut-être la quatrième de. Je vais lire si tu veux la quatrième
avec
de couverture
plaisir. Je
pour
veux
déjà.
Entendre ta voix, oui.
Ah merci. Bon, alors je vais faire attention, de bien lire, attention. Devant son émotion et cette vision, Malika se rapprocha de sa mère et posa tendrement sa petite tête contre elle. Dans un souffle, elle lui dit « Maman, est-ce que c'est lui ?»« Oui, ma fille, il est beau. »« Oui, il a toujours été là. Ton père te racontera son histoire dès qu'il ira mieux. »« Il est étrange, c'est vrai qu'il parle ?» Ce sont des sottises, un arbre, ça ne parle pas. Malika, as-tu soif ? Oh oui, maman, je meurs de soif. Alors viens, avant que tu ne meures.
Et
donc il faut peut-être expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que lu comme ça, enfin écrit comme ça, c'est vrai que c'est la quatrième de couverture, ça s'arrête comme
exprès,
ça.
Voilà.
C'est fait exprès.
Didier a fait le choix de ce texte.
Tout à fait, donc... On peut peut-être un peu expliquer, parce que ça peut les auditeurs peuvent se dire « Mais tiens, c'est curieux comme phrase, terminée sur cette phrase qui pourrait, on pourrait penser être négative.
Ouais, » ouais. Toute l'ambiguïté est là. Toute l'ambiguïté est là.
«
Boire, vivre. Et avant que tu ne meures, dit la mère, ce n'est pas une mort définitive. » Elle a emmené sa fille la nuit parce que son époux est malade d'une terrible maladie qui n'a pas de nom. Hein, ça peut être n'importe quoi. Mais on ne peut guérir le malade que par l'écorce de l'arbre. Et elles sont devant cet arbre avec sa fille, elle et sa fille. Et elles vont se rapprocher, elles vont arracher un morceau d'écorce. Mais la loi l'interdit. Le conseil des sages interdit absolument de guérir le malade dans sa famille sans l'autorisation de ce conseil des sages. Et quand on va toucher cet arbre, c'est là où on voit que tous les arbres que l'on piétine chaque jour, que l'on coupe, que l'on déracine, comme les êtres humains, souffrent, peuvent crier, hurler leur douleur. Mais à nous de les entendre. Et parce que sûrement qu'ils nous parlent, mais on est devenu bien sourd, ô être humain que nous sommes. Donc voilà, et donc c'est toute l'ambiguïté de bois, vie, ressource-toi auprès des arbres, ou sinon, avant que tu ne meures.
C'est l'arbre, donc l'arbre vivant, ça fait penser aussi, bon, plus récemment, et puis bon, d'une manière plus féerique dans le sens plus enfantin, dans le dessin animé Pocahontas,
oui.
Avec grand-mère Feuillage,
hein,
cet arbre qui parle, hein, qui lui parle, auprès de qui elle va se consoler quand elle a le cœur lourd et qui la réconforte.
Mais qui n'a pas fait ça dans un square ou dans la forêt, hein? Se coller,
oui,
contre un arbre, le
regarder. Il y en a aussi qui, au couteau, ont gravé des choses dans les écorces d'arbres.
Oui, ça va,
des
il arrive
cœurs,
à se réparer.
Des prénoms. Des...
Donc il y a bien, on veut laisser une trace, mais les arbres laissent des traces sur nous aussi.
Et puis bon, ce conte, c'est un peu voilà, les racines de l'enfance. Et puis que quelque part, quand on grandit, on oublie un peu ces racines, des fois justement, de les origines dont tu parlais tout à l'heure, le fondement quoi, de la vie. Et qu'en grandissant, des fois, on perd un peu, on peut oublier tout ça. Et...
On oublie, la vie nous emmène à mettre de la poussière dessus, de l'oubli, et puis un jour ça revient. Je pense qu'on accepte tous ce cheminement. Le pire, c'est quand on se déracine ou on part, on veut emporter ses racines. C'est-à-dire on veut déraciner son arbre et l'emporter avec ses racines pour aller le planter ailleurs. Non, là, c'est plutôt la force de l'imaginaire et de la nourriture qu'on a eue enfant dans cet autre pays, par exemple. Mais c'est aller avec cet arbre intérieur et non pas vouloir emporter l'arbre et les racines.
Ouais,
non, il pousse là où il est.
Mmh.
Mais nous, la force humaine, c'est ce mental qu'il y a, cette force du cœur. Et de vivre ailleurs.
Moi, et mon puis arbre... de respecter les arbres aussi qu'on le rencontre au cours de sa vie également.
Oui, et puis
parce
surtout...
Parce qu'on en rencontre aussi beaucoup. D'autres, même s'ils ne sont pas le premier arbre. On en rencontre d'autres.
Absolument.
Hein, que ce soit dans la rue, dans un square, partout.
Oui, et je pense qu'il y a un langage là aussi poétique, universel, entre arbres. Alors peut-être que nous-mêmes, nous sommes des arbres. Peut-être, hein, et que c'est des arbres qui vont... Non, je dis... Enfin, est-ce que Didier est là? Non.
Je ne crois pas.
Alors comment te dire, Claire?
Eh bien, je te laisse.
Comment
te
dire?
On va te laisser compter, raconter.
Je vais essayer de lire ce que j'ai écrit. Alors c'est toujours délicat d'écrire, de lire ce qu'on a écrit. Mais je vais essayer. Donc comment te dire, ô Claire? Comment te dire, ô mon fils? Comment te dire, cette histoire est venue de ma mémoire pour peut-être me dire, te dire, toi qui m'écoutes, que le temps est un coffre que l'on peut remplir de ses trésors, les souvenirs. Je me souviens qu'un jour où j'avais demandé à ma mère si durant mon enfance elle m'avait raconté des histoires, elle me répondit que oui. Alors sa bouche s'ouvrit. Et elle se mit à me raconter ce qu'elle m'avait conté jadis. Depuis ce jour, ma mémoire d'enfant a été retrouvée. Quelques années plus tard, à Paris, une envie pressante d'écrire pour le théâtre me saisit. Je cherchais un thème et c'est là que le souvenir d'une histoire vécue racontée par ma mère me revint à l'esprit. C'était en hiver, dans le Moyen Atlas. Mon père et ma mère amassaient du bois mort en haut d'une colline. Soudain, ils virent un arbre mort. Mon père s'en approcha, tout fier de cette découverte, et d'un geste puissant, il souleva sa hache pour le frapper. Pinçant au dehors, le froid était encore plus intense à la maison. Pour eux, cet arbre mort était une aubaine. Au moment où il allait cogner l'arbre, le tronc, un cri perça l'espace et les oreilles de mon père. Ma mère se rapprocha, mon père, imperturbable et courageux, tourna autour de l'arbre pour voir d'où venait le cri. Il ne trouvait rien, si ce n'est le vide et le silence. À nouveau, il se mit en place et souleva sa hache. À l'instant où la lame de la hache s'écrasait sur l'écorce, le même cri retentit. « Aïe !» strident, puissant et plaintif, qui disait clairement « Aïe, aïe, aïe !» Ma mère éloigna mon père de l'arbre mort et elle lui dit « Ne vois-tu pas qu'il est vivant ?» Ma mère, qui m'avait raconté ce souvenir lointain, ô chère Claire, ô cher auditeur, me revint comme une source d'inspiration. Et sa retenue, j'ai plongé en son âme et j'ai imaginé cette histoire que je m'en vais vous conter. À Paris ou dans n'importe quelle grande ville du monde, un homme traversait un square pour rencontrer rentrer chez lui après sa longue journée de travail, il empruntait chaque jour le même chemin, invariablement jusqu'au jour où il décida de prendre place sur l'unique banc public de ce petit square éclairé par une faible lumière, un lampadaire. Là, je pourrais continuer à raconter. Mais
oui, il faut laisser peut-être...
Tout va se passer dans ce square.
Eh oui. Oui, il y est au début, il y est à la fin.
À la fin.
Voilà,
et ce square va ouvrir
le square
une
à la
porte,
fin du conte.
Une brèche pour emmener l'auditeur et le lecteur dans le désert.
Tout à fait. Et d'ailleurs, bon, moi, à la fin, il y a deux phrases. Enfin, bon, il n'y a pas que deux phrases qui m'ont marqué dans tout le conte, mais
c'est possible.
J'en
on
ai...
peut lire un livre entier, et si on a appris une phrase qui nous a nourri l'âme, ça suffit. C'est génial.
Voilà, moi, j'en ai moins de deux là sous les yeux que j'ai envie de voilà de faire partager. C'est un désert sans un arbre est un feu qui brûle. Je trouve ça. Je trouve ça très, très parlant.
On se reconnaît tous.
Oui. Et la deuxième, c'est « Un cœur sans amour est un désert ». Là, on se reconnaît encore mieux. Enfin, je veux dire, ça nous parle encore plus. Parce que c'est sûr que, bon, sans amour, dans le cœur ou dans la vie...
Je sais pas, on peut vivre sans amour.
Non. L'amour,
voilà, c'est de la provocation.
Oui, oui, parce qu'en plus, je sais, voilà, Jérémie, voilà, on a les mêmes idées, on partage la même... La même philosophie, je pense, de la vie et de. Donc c'est un très beau conte, un très beau livre. Alors on va rappeler ça s'appelle L'Arbre du désert. C'est édité au Griffon Bleu. Alors malheureusement, je ne sais pas, Didier a dû certainement partir.
Retenu à l'école avec ses
je
enfants.
Je ne sais pas, ou peut-être partir pour des raisons personnelles. Mais en tout cas, il ne sera pas avec nous ce matin. Mais s'il ne l'a pas été, c'est certainement pour une raison importante. Voilà, donc la prochaine fois, on pense à lui. Ouais. Et puis j'espère que la prochaine fois, vous viendrez tous les deux et lui aussi en chair et en os sera là avec nous. Donc c'est un livre, donc comme on l'a dit, illustré par Birgit Killian, écrit donc par Amit Beryouni, que l'on trouve partout.
On dit dans toutes les bonnes librairies, sinon voilà. Vous rentrez chez n'importe quel libraire
sinon,
et vous demandez.
Voilà, L'Arbre du désert, donc, aux éditions du Griffon Bleu. Et que dire encore, un projet, des projets avec Didier. Alors, il n'est pas là pour en parler, mais enfin bon, tu peux, toi, peut-être nous en dire
des projets en
mots.
Chemine, puisque le conte nous unit et l'écriture.
Moi, oui, il y a déjà eu Alibaba, voilà. Qui est édité au Griffon Bleu. Là, maintenant, c'est L'Arbre du désert. Donc, est-ce qu'il y aura un prochain...
Alors, j'ai un projet que on en a parlé. C'est un livre, un recueil de contes de mon enfance.
Donc, plusieurs, voilà, il y a un recueil avec plusieurs contes.
Voilà, il y a une vingtaine de contes, donc qui peut être aussi une source d'inspiration pour d'autres. Et un CD. C'est-à-dire ces contes racontés, il y aurait de l'audio, voilà.
Avec le livre et le CD avec.
Le livre et le CD avec, voilà.
Ah, c'est bien, voilà. C'est une très bonne idée.
Je pense, voilà, je ne voulais pas que mes contes soient audibles, je voulais qu'on vienne les voir pour voir la gestuelle, les mimiques du conteur, puisque il y a
ah bah
pas
oui,
plus beau
oui,
que le spectacle
oui,
vivant.
Tout à fait.
Voilà, mais j'en arrive à changer d'avis, donc puisqu'on me le demande à chaque fois.
Bah, l'audio, oui, c'est vrai que c'est bien aussi.
Puis on est à la radio, j'aime beaucoup la radio, donc il y a des choses qui peuvent se passer.
Qui peuvent passer, voilà, comme ça. Donc ça serait le prochain projet avec le Griffon
avec
Bleu.
Avec Didier Debord, le Griffon Bleu, ou avec d'autres, voilà. Puisque je crois que chacun a sa liberté aussi,
oui,
c'est important. Mais voilà, moi c'est mon idée, c'est ce qui me... J'ai rencontré un musicien qui est prêt à le faire, à partir avec moi dans cette aventure.
Et les contes, ils sont écrits. Enfin,
ils sont dans ma tête.
Ils sont dans ta tête. Mais... Il n'y a plus qu'à les coucher sur le papier, on va
Oui,
dire.
J'ai même acheté un logiciel pour parler et qui m'écrive les choses parce que ça va trop vite dans ma tête. Oui.
Ah.
Oui, je quitte l'écriture. Voilà, je voudrais. Voilà, parce que j'aimerais écrire comme je compte.
D'accord, oui, donc c'est sûr que c'est voilà. Il faut que ça aille vite, enfin que il
voilà,
faut qu'il
j'aimerais
certaine...
tel que ce que je trouve quand je raconte, j'ai une parole autre
que quand tu écris.
Que lorsque j'écris.
Et oui, forcément, c'est plus vivant la parole et forcément.
Voilà. J'ai envie que ça soit il y a une correctrice qui m'a dit c'est très agréable de corriger tes textes parce que ça coule.
Mmh.
Donc si ça pouvait couler un petit peu de source.
Comme la petite rivière.
La petite rivière qui nous raconte des choses qui parlent. Donc,
il faut écouter la nature.
Urgemment, oui.
Avant qu'il n'y en ait plus.
Oh, il y en aura, je crois qu'on ne va pas être défaitiste.
Il faut respecter.
Il faut respecter ce qui nous entoure, oui. Mais aussi l'être humain qui nous entoure. J'écoutais... À la mairie de Lavaur, il disait que le maire, ce matin, à la radio sur la route, qu'il ne veut plus des SDF dans la rue. Mais où est-ce qu'on va les mettre ?
Oui.
Est-ce qu'on va agir avec eux ou essayer simplement de les déplacer ?
Oui, déplacer le problème. Voilà.
C'est triste. Je veux dire, alors, est-ce que quand la rivière est malade en bas de la maison, qu'est-ce qu'on fait ?
Il faut trouver des solutions.
Mais je pense qu'on est responsable, il faut continuer à chercher des solutions dans le milieu dans lequel on vit parce qu'il a besoin de nous et on a besoin de lui.
Tout à fait.
Voilà. Mon voisin n'est pas terrible, je ne vais pas le jeter. Ben, on ne se dit pas bonjour, c'est déjà pas mal. Mais on n'ira pas se disputer pour encore envenimer la situation. Peut-être toujours avoir dans l'idée de chercher à un moment une petite porte, une petite fissure pour le toucher son âme, bien qu'à m'isoler.
Le positif, hein, toujours...
Essayer.
De positiver. Ouais. Bah, merci Hamid pour cette demi-heure passée en ta compagnie. C'était vraiment un grand plaisir.
Merci beaucoup. On va se retrouver à l'hippodrome. On fait une soirée mille et une nuit. C'est fini.
Oui,
bonne route à vous.
Je l'annoncerai la semaine prochaine, Hamid. Et on se retrouve
merci
la semaine
Claire.
Prochaine. Adiciat, c'est bonne semaine à tous. Merci Hamid.
Adiciat.